de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Toutes les troupes américaines ont été retirées d'Afghanistan. Le Conseil de sécurité de l'ONU publie une résolution sur l'Afghanistan, la Chine et la Russie s'abstiennent. L'Italie signale lundi 4257 nouveaux cas de COVID-19 et 53 décès. Le confinement à Canberra en Australie est prolongé. L'Allemagne attend la concrétisation des promesses des talibans. L'Union européenne retire les États-Unis de la liste des pays sûrs pour voyager. Et visité par l'ambassadeur du Japon, Prabowo parle de l'augmentation de la coopération en matière de défense. Mon cher Gétard, voici les nouvelles en complet. Toutes les troupes américaines ont été retirées d'Afghanistan. Les États-Unis ont achevé lundi le retrait de leurs troupes d'Afghanistan. L'opération s'est achevée avant une échéance de mardi fixée par le président américain Joe Biden, le général Frank McKenzie, chef du commandement central américain, a déclaré au Pentagone que le chef de la diplomatie américaine en Afghanistan, Ross Wilson, était à bord du dernier avion C-17. Deux responsables américains ont déclaré que le personnel diplomatique de base faisait partie des 6000 Américains qui sont revenus. Cité par Reuters, McKenzie a déclaré que le dernier vol n'incluait pas les 250 Américains qui voulaient partir mais n'ont pas pu rejoindre l'aéroport. Reuters a rapporté que le vol final était possible après qu'un système américain de défense antimissile ait intercepté une roquette tirée sur l'aéroport de Kaboul. Un responsable américain a déclaré que les premiers rapports ne montraient aucune victime américaine due à 5 roquettes tirées. L'État islamique a revendiqué l'attaque à la roquette. Le Conseil de sécurité de l'ONU publie une résolution sur l'Afghanistan, la Chine et la Russie s'abstiennent. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution demandant aux talibans d'honorer leur engagement de permettre aux gens de quitter librement l'Afghanistan. La résolution rédigée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France a été adoptée par 13 voix pour et sans objection, alors que la Chine et la Russie ont choisi de s'abstenir. La résolution indique que le Conseil de sécurité de l'ONU s'attend à ce que les talibans permettent un départ sûr, sécurisé et ordonné d'Afghanistan pour les Afghans et tous les ressortissants étrangers. Cela fait référence à une déclaration des talibans du 27 août, lorsque la milice a déclaré que les Afghans pourraient voyager à l'étranger et quitter l'Afghanistan quand ils le souhaitent, y compris par les postes frontaliers aériens et terrestres. L'Italie signale lundi 4257 nouveaux cas de COVID-19 et 53 décès. Le ministère italien de la Santé a signalé lundi 4257 nouveaux cas de COVID-19 et 53 décès liés au coronavirus. Le nombre de morts de COVID-19 en Italie lundi est passé de 37 la veille, tandis que le nombre quotidien de nouvelles infections s'est précédemment passé de 5959. Plus de 129 000 décès liés à COVID-19 ont été enregistrés en Italie depuis l'apparition de l'épidémie d'infection à coronavirus en février 2020. Le nombre de morts est le deuxième plus élevé en Europe après le Royaume-Uni et le huitième au monde. L'Italie a signalé à ce jour 4,53 millions de cas d'infection à COVID-19. Le confinement à Canberra en Australie est prolongé. Le gouvernement de Canberra a prolongé mardi le confinement de 2 semaines lors que la capitale australienne tente de contenir une augmentation de la variante Delta du coronavirus COVID-19. Le ministre en chef du territoire de la capitale australienne, Andrew Barr, à Canberra, a déclaré que le confinement resterait en place au moins jusqu'au 17 septembre. Une grande partie de la côte et de l'Australie a été soumise à des semaines de restrictions sévères qui ont un effet dévastateur sur l'économie locale, tandis que les cas de COVID-19 sont toujours en augmentation. Canberra a signalé mardi 13 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. L'Allemagne attend la concrétisation des promesses des talibans. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré que son pays attendrait les talibans de former un nouveau gouvernement en Afghanistan. Maas a déclaré lors d'une conférence de presse avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, à Islamabad mardi 31 août, que Berlin surveillerait si les talibans étaient déterminés à tenir leurs promesses, notamment en permettant aux civils de voyager depuis l'aéroport de Kaboul. En plus de la question de la liberté de voyager, l'Allemagne surveillera également si les talibans tiennent leur promesse de former un gouvernement inclusif. L'Union européenne retire les États-Unis de la liste des pays sûrs pour voyager. Les États membres de l'Union européenne ont convenu lundi de retirer les États-Unis de la liste de l'Union européenne comme pays à l'abri de COVID-19 pour les voyages. Cela signifie que les visiteurs des États-Unis et ceux de 5 autres pays sont susceptibles de faire face à des contrôles plus stricts, tels que les tests de COVID-19 et la quarantaine. Israël, le Kosovo et le Liban, le Monténégro et la Macédoine du Nord ont également été retirés de la liste de l'Union européenne des pays sûrs pour voyager. La liste vise à unifier les règles de voyage à travers le bloc européen, bien qu'elle ne soit pas contraignante pour chaque pays de l'Union européenne. Chaque État membre de l'Union européenne est libre de déterminer sa propre politique frontalière. Visité par l'ambassadeur du Japon, Prabowo parle de l'augmentation de la coopération en matière de défense. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a reçu une visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Kenshi Kanasugi. La réunion s'est tenue mardi 31 août 2021 au bureau du ministère de la Défense, Medan Merdeka Barat, dans le centre de Jakarta. Le ministère de la Défense, dans une déclaration écrite mardi, a déclaré qu'au cours de cette visite, il a notamment discuté des efforts visant à accroître la coopération bilatérale et les relations entre l'Indonésie et le Japon, en particulier dans le secteur de la défense, qui est bien établi jusqu'à présent. Le ministre Prabowo a expliqué que l'Indonésie et le Japon s'étaient mis d'accord sur l'accord de coopération sur le transfert des principaux outils du système de défense à l'Alutsista et de technologie, marquant le début de la coopération entre l'industrie et de la défense qui a été signalée par les ministres de la défense des deux pays le 30 mars dernier. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Afghanistan et Turquie après le départ des États-Unis d'Afghanistan ». Vous êtes avec Maudrey. Chers auditeurs, les États-Unis ont retiré toutes leurs troupes d'Afghanistan dans la soirée du 30 août. Un jour avant la date prévue au départ des États-Unis, les talibans ont déclaré que l'Afghanistan était pleinement indépendant. Maintenant, ce que les talibans doivent faire, c'est prouver qu'en dehors de l'Amérique et de ses alliés, l'Afghanistan sera mieux loti politiquement, économiquement, socialement et religieusement. la communauté internationale attend la promesse des talibans. D'un point de vue sécuritaire, les talibans doivent démontrer que l'Afghanistan sera à l'abri de l'intrusion de l'État islamique, qui une semaine plus tôt avait reconnu la responsabilité des deux bombes qui ont explosé devant l'aéroport international de Kaboul. L'incident a tué de nombreuses personnes, dont un certain nombre de soldats américains. La prise de contrôle de l'aéroport international Hamid Karzai par les talibans après le départ des États-Unis témoignera de la façon dont les talibans maintiennent la sécurité et ouvrent l'aéroport aux besoins des réfugiés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution sur le passage sur demande aux talibans d'assurer la sécurité des réfugiés quittant l'Afghanistan. En outre, les talibans ont également été invités à garantir la distribution de l'aide humanitaire et la mise en œuvre des principes des droits de l'homme. Les talibans doivent également démontrer immédiatement qu'ils sont capables de gérer et d'exploiter l'aéroport international de Kaboul et d'administrer l'Afghanistan par le biais d'un gouvernement largement reconnu. Cela nécessite une coopération avec d'autres pays. Selon les informations, les talibans étaient en pourparlers avec la Turquie concernant la coopération dans la gestion et l'exploitation de son aéroport. Depuis 2002, la Turquie a inclus ses troupes dans l'OTAN, n'était pas en tant que force de combat, mais pour gérer les gestions de logistique. Sur la base d'un besoin urgent, il est très possible que les talibans coopèrent avec la Turquie. Les pays considèrent certainement l'Afghanistan après la fin de la guerre avec les États-Unis comme très stratégique au regard de ses intérêts géopolitiques. La coopération avec les talibans permettra à la Turquie d'avoir un nouveau pied dans l'exercice de son influence, notamment en Asie centrale et du Sud. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 1er septembre 1923, le tremblement de terre à Kanto au Japon. Le grand séisme de Kanto de 1983 au séisme de Kanto a dévasté la plaine de Kanto qui se situe à Honshu, l'île principale du Japon, le 1er septembre 1923 à 11h58. Divers rapports indiquent que la durée du séisme était comprise entre 4 et 10 minutes. Ce séisme avait une magnitude de 7,9, plus de 105 000 personnes sont mortes et ont disparu, et plus de 1 900 000 personnes ont été évacuées. Ce tremblement de terre a détruit 109 000 bâtiments. L'autre information est sur la première conférence du mouvement des non-alignés à Belgrade en Yougoslavie le 1er septembre 1961. Le mouvement des non-alignés est une organisation internationale composée de plus de 100 pays qui se considèrent comme n'étant alliés à aucune grande puissance. Le but de cette organisation, comme indiqué dans la déclaration de La Havane de 1979, est de garantir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte. Les fondateurs de ce mouvement étaient 5 dirigeants mondiaux, à savoir Josip Broz Tito, président de la Yougoslavie, Sukarno, président de l'Indonésie, Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, Pandit Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde, et Kwame Nkrumah du Ghana. Le mouvement des non alignés a tenu son premier sommet à Belgrade en Yougoslavie, du 1er au 6 septembre 1961. C'est lors de cette première conférence que le mouvement des non-alignés est officiellement né. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « L'Université agricole de Bogor a été fondée le 1er septembre 1963. Fondée officiellement le 1er septembre 1963, basée sur de la lettre de l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science numéro 91 de 1963 et ratifiée par le décret du président de la République d'Indonésie numéro 279 de 1965, l'Institut agricole de Bogor, ou IPB, est le seul établissement d'enseignement supérieur indonésien dédié exclusivement à l'agriculture, aux ressources naturelles et au développement environnemental. L'histoire de la naissance de l'IPB a commencé avec la création de la Faculté des sciences agricoles de l'Université d'Indonésie à Bogor. La création de la faculté est le précurseur de l'IPB et marque un nouveau chapitre de l'enseignement supérieur agricole en Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Cinta. selesaikan.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, la demande d'exportation pour les produits des MPME reste élevée pendant la pandémie. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME, Teten Mas Duki, a révélé que la demande d'exportation des produits des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, de l'Indonésie, était très élevée au milieu de la pandémie de COVID-19. Cependant, divers obstacles allant de la capacité de production à la disponibilité des conteneurs restent un problème. C'est ce qu'a déclaré Teten Mas Duki dans un communiqué de presse lors d'une visite à Purworejo, dans la province de Jawa Central, dimanche le 29 août. Teten Mas Duki a expliqué que de nombreuses demandes d'exportation ont été soumises, notamment pour des produits de meubles, du café, des fruits tropicaux et divers produits culinaires. Selon lui, la pénurie de conteneurs peut être gérée avec les frais d'expédition supplémentaires qui sont assez chers. Concernant les frais de port, a expliqué Teten Mas Duki, ils sont toujours en cours de discussion et de la formation par le comité de la relance de l'économie nationale interministérielle. Il a déclaré qu'actuellement, sa partie cible les PME potentielles à l'exportation qui ont une demande de marché, mais la chaîne d'approvisionnement doit encore être abordée. Il a donné un exemple des produits en briquette à base de coque de noix de coco et de sucre de palme, dont la demande de l'étranger est très grande et peut être développée. Il a expliqué: bien que la demande pour les deux produits soit élevée, les MPME de Sulawesi et de Jawa Occidental ne pouvaient pas répondre à la demande en raison de diverses conditions. De la question de la capacité de production à la gestion, pendant ce temps, jusqu'à présent, La contribution des exportations des PME est toujours de 14,37%. Dans ces conditions, Tata Masdouki a suggéré que les PME pourraient se concentrer sur le marché intérieur qui pourrait remplacer les produits importés tels que les fruits et la mode musulmane. Si l'économie peut rétablir complètement, il espère que le secteur de la consommation intérieure pourra continuer à augmenter. C'est parce que l'économie indonésienne est soutenue par la consommation des ménages jusqu'à 53%. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises est optimiste que l'assouplissement de la mise en œuvre des restrictions aux activités communautaires, PPKM, relancera immédiatement les activités économiques. Chers auditeurs, c'était Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Semua kebaikan untuk sesama.
Berbagilah, bagikan semua kebaikan untuk sesama. Dan berhenti, berhentilah buang-buang waktumu percuma. Berbagilah, bagikan semua.
C'était la deuxième chanson
pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs, on se retrouve encore dans le magazine culturel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mont Ijen. La montagne Ijen, avec une altitude de 2443 mètres au-dessus du niveau de la mer, a un enchantement incroyable. La montagne, qui est située aux frontières de la résidence Bondowoso et Banyuwangi, est assez souvent escaladée par de nombreux touristes nationaux et étrangers, car elle est bien connue sur son phénomène naturel au cratère Ijen, à savoir le feu bleu. Escalade de mont Ijen prend environ 3 à 4 heures avec un terrain sablonneux et rocheux escarpé. Le cratère d'Ijen a une profondeur de 200 mètres avec une superficie de 5466 hectares. L'enchantement du feu bleu peut être vu dans le cratère. Le cratère Ijen avec une grande teneur en soufre a une chaleur géothermique à haute pression de sorte que la réaction d'oxydation se produit. La réaction de combustion du soufre produit de la chaleur et de la lumière. Puis celle-ci est acceptée comme couleur bleue par les récepteurs des yeux humains. Le meilleur moment pour regarder le feu bleu dans le cratère Ijen est à l'aube entre 2h et 4h heure locale. Pour escalader la montagne, nous vous suggérons de l'escalader la nuit vers 22h afin de vous détendre. Le voyage au fond du cratère n'est pas facile à passer car il y a une piste en montée le long de 3 km et environ 700 mètres en descente. Outre les pistes difficiles du cratère Ijen, lorsque vous descendez vers le cratère, vous devez partager l'espace avec les mineurs de soufre qui transportent des dizaines de kilogrammes de soufre. Son état sera plus difficile s'il y a beaucoup de grimpeurs. Le meilleur mois pour observer le feu bleu du cratère Ijen est décembre car l'intensité de brouillard est plus faible. En telle condition, vous pouvez regarder le feu bleu et le bleu du lac sans brouillard. Si le brouillard est haut et épais, le feu bleu n'est pas faiblement visible et il a tendance à faiblir, même s'il n'est pas du tout vu. Après avoir profité du feu bleu, vous pouvez continuer votre voyage jusqu'au sommet du mont Ijen qui se situe à environ 1 km du cratère. Là-bas, vous pouvez regarder le beau lever de soleil. Du sommet de la montagne, vous pouvez profiter d'un beau panorama et même du sommet du mont. Merapi est situé à l'est du cratère Ijen. Alors, qu'est-ce que tu attends? Réglez votre temps pour aller à Bondowoso dans la province de Jawa Oriental pour profiter du feu bleu. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations,
veuillez visiter notre site web www.voinews.it. Bonne chance!
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous! On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Kapan masuk kantor lagi ?»« Kapan masuk kantor lagi ?» En français, « Quand sommes-nous de retour au bureau ?» Bonne écoute. « Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Kapan masuk kantor lagi ?»« Kapan masuk kantor lagi ?» En français, « Quand sommes-nous de retour au bureau ?» La situation est que Kevin et Mela travaillent depuis leur domicile respectif. Kevin a demandé à Mela quand il serait de retour au bureau. Bonne écoute.
Kapan kita akan masuk kantor lagi?
Minggu depan.
Hari apa?
Hari Rabu.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Kapan masuk kantor lagi? Kapan masuk kantor lagi? En français, quand sommes-nous de retour au bureau? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Kapan. Kapan. En français, quand. Apa. Apa. En français, quel. Akan masuk lagi. Akan masuk lagi. En français, être de retour. Kantor. Kantor. En français, bureau. Minggu. Minggu. Semaine. Hari. Hari. Jour. Kapan kita akan masuk kantor lagi? Kapan kita akan masuk kantor lagi? En français, quand sommes-nous de retour au bureau? Minggu depan. Minggu depan. Semaine prochaine. Hari apa? Hari apa? Quel jour? Hari Rabu. Hari Rabu, mercredi. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu l'expression « Kapan kita akan masuk kantor lagi ?» Kapan kita akan masuk kantor lagi? En français, quand serons-nous de retour au bureau? Dans cette expression, il y a un mot interrogatif, kapan. Kapan, en français, quand. Ce mot est utilisé pour demander l'information de temps. Par exemple, kapan kita akan masuk kantor lagi? Kapan kita akan masuk kantor lagi? En français, quand serons-nous de retour au bureau? La réponse donnée par l'interlocuteur à cette question peut encore être générale. Elle peut aussi être spécifique. Chers auditeurs, maintenant écoutons un autre exemple d'expression pour exprimer qu'une activité est reportée. Kevin. Kapan rapat akan dimulai? Kapan rapat akan dimulai? En français, quand commence la réunion? Mais là, sebentar lagi. Sebentar lagi, en français plus tôt. Kevin, kapan kamu mulai bekerja di sini? Kapan kamu mulai bekerja di sini? En français, quand as-tu commencé à travailler ici? Mila, tahun 2018. Tahun 2018. En français, en 2018. Kevin, kapan kita akan rapat? Kapan kita akan rapat? En français, quand est-ce qu'on se voit? Mela, pagi ini pukul 9. Pagi ini pukul 9. En français, ce matin à 9h. Chers auditeurs, pour l'information, le territoire de l'Indonésie est divisé en 3 fuseaux horaires. Les 3 fuseaux horaires sont l'heure de l'Indonésie occidentale, abrégée en WIB, l'heure de l'Indonésie centrale, abrégée en WITA, et l'heure de l'Indonésie orientale, abrégée en WIT. WIB ou WIB est une heure plus tard que WITA et 2 heures plus tard que WIT. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, est dans le fuseau horaire WIB. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kapan kita akan masuk kantor lagi?
Minggu depan.
Hari apa?
Hari Rabu.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Bengkulu intitulée Sekundang Setungguan, chantée par Iwan Sairang. Chargé tard, l'expression Sekundang Setungguan est la devise de la province de Bengkulu qui signifie tout travail lourd sera léger lorsqu'il sera fait ensemble. Les paroles de cette chanson portent également le sens de la devise Sekundang Setungguan. Cette chanson invite les gens à privilégier l'unité et la coopération mutuelle. Mon cher Zoytar, voici Iwan Sairang va chanter une chanson intitulée Sekundang Setungguan. Bonne écoute.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.